Chapitre 17, la Saint-Jean. C'est le temps le plus splendide de l'année, la Saint-Jean. C'est aussi l'époque où Saint-Trame, le méchant maître de force, sent le plus de dépit et le plus de rancune fermenter dans son âme. Il détestait cette invasion triomphale de la lumière, le tapis diapré qui recouvre la terre, l'habit frais et neuf dont resplendissent les arbres irrités ses yeux. La route même, pour grise et poudreuse qu'elle fût, avait sa bordure de fleurs. Et Saint-Trame ne lui pardonnait pas ses couronnes de cerfeuil et ses touffes de primes verts. Quand la splendeur du jour de la Saint-Jean se répandit sur les montagnes et que l'air vibrant apporta jusqu'à force le son des cloches de l'église, quand la paix infinie de ce jour de fête enveloppa la contrée, alors Saint-Trame se leva, furieux et résolu d'aller à l'église lui aussi. Ceux qui acclamaient avec tant d'enthousiasme le renouveau et l'été verraient ce qu'en pensait Saint-Trame. Il revêtit sa grosse pelisse de loup. Il mit ses gants de fourrure. Il fit atteler son cheval roux à son traîneau de course et attacher des grappes de grelots dans le harnais brillant orné de coquillages. Habillé comme pour affronter 30 degrés de froid, il s'en alla vers le temple. Il se plaisait à croire que le grincement sous les patins du traîneau venait de l'âpre gelée et que c'était les frimas qui couvraient les flancs de son cheval d'une écume blanche. Il n'avait pas trop chaud. Le froid irradiait de lui comme la chaleur du soleil. Il traversa, au nord de l'église de Brault, la plaine riche de grands villages opulents et des champs de blé où voltigeait et planait le chant des alouettes. Jamais ailleurs je n'ai entendu les alouettes chanter comme sur ces plaines de Brault. Je me suis souvent demandé si vraiment Saint-Trame pouvait rester sourd à leur treillis d'allégresse. Que de spectacles agaçants pour lui le long de cette route. Deux bouleaux s'inclinaient et saluaient à la porte de chaque maisonnette, et par les fenêtres ouvertes, on apercevait des fleurs et des rameaux verts suspendus au mur des chambres. La plus chétive petite mendiante se promenait avec une branche de lilas à la main. Point de paysanne qui n'eut un bouquet de fleurs dans les plis de son mouchoir d'église. Des mâts, ornés de guirlandes et de couronnes encore fraîches, se dressaient au milieu de la cour des fermes. Le piétinement des danses avait froissé l'herbe tout autour, car la ronde y avait tourné dans la nuit claire. Sur le Leven, les trains de bois se pressaient. Leurs petites voiles blanches, hissées, flottaient comme des drapeaux, et il n'y avait pas une vergue qui ne fût couronnée de verdure. Sur tous les sentiers et les chemins qui menaient à Brault, les femmes se hâtaient et avaient mis pour la première fois leurs belles robes d'été. Et l'on se réjouissait du grand repos dominical, de la tiédeur, des promesses de moisson et des fraises qui commençaient à rougir aux pentes des fossés. L'air calme, le ciel sans nuages et le chant des alouettes faisaient dire « On voit bien que le jour appartient à notre Seigneur. » À ce moment, Saint-Trame arriva dans son traîneau. Il jurait et fouettait son cheval éreinté tout en sueur. Le grincement sinistre du gravier, le tintement aigu des grelots empêchaient d'entendre l'appel des cloches. Et la figure du méchant se rengorgeait sous son bonnet de fourrure. Les gens de la messe se mirent à frissonner. Ceux qui, debout à l'ombre de l'église ou assis sur le mur de l'enclos, attendaient le commencement du service divin, le virent avec un profond étonnement descendre du traîneau et traverser le cimetière. Tout à l'heure, dans la splendeur des choses, ils se félicitaient de fouler les sentiers de la vie. Mais lorsqu'ils aperçurent le méchant Saint-Trame, de funestes pressentiments les assaillirent. Ils s'avançaient et saluaient un ami, çà et là, qui n'était point honoré de son salut sans flatter grandement, car Saint-Trame ne saluait que ceux qui servaient sa cause. Saubonnet rasa presque la terre devant le pasteur de Brebeuf. Il se leva pour les cavaliers, mais il n'eut pas même un petit geste de la main pour le curé de Brault et le juge de Monquerode. Il entra dans l'église et jeta ses gants contre le pupitre de sa stalle, si violemment que les griffes de loup, qui en ornaient le bout des doigts, retentirent de la porte à l'autel. Quelques femmes, déjà installées sur leurs bancs, faillirent s'évanouir à l'apparition de cet être couvert d'une peau de bête. Les âmes ne goûtèrent plus aucun recueillement, mais il était trop redouté pour qu'on osât lui dire de sortir. En vain, le bon vieux curé parla de la fête lumineuse. On ne l'écouta que d'une oreille distraite, car tout le monde se demandait quelle infortune annonçait la présence du méchant maître de force. Quand le service fut fini, on le vit monter au sommet de la colline où est située l'église de Brault. De là, il promena ses yeux sur le détroit du Leven jusqu'au presbytère de Brebeuf. Et il menaça du poing les rives verdoyantes. Puis ses regards descendirent vers le sud, jusqu'au cap bleuissant qui semble enclore le lac. Puis ils remontèrent vers le nord et s'en allèrent jusqu'au pic de Gurlita. Il menaça du poing toutes les hauteurs qui encadrent la riche vallée. S'il avait eu des foudres à lancer, on ne doutait point qu'il en eût accablé avec délices ces paisibles contrées. D'étranges bruits coururent ensuite. On prétendit que le sacristain, en venant fermer la porte de l'église, il cassa sa clé contre un dur morceau de papier enfoncé dans la serrure. Il remit le papier au curé, et chacun comprit que c'était une missive adressée à un être de l'autre monde. On sut même ce qui était griffonné sur ce papier diabolique. Le curé l'avait brûlé devant le sacristain. Les lettres avaient lui toutes rouges sur un fond noir, et le sacristain n'avait pu éviter de les lire. Il y avait lu que Sainte Rame promettait à son seigneur et maître le désastre et la ruine de tout le pays, aussi loin que se voyait le clocher de Broc.